On va attaquer notre dernier sujet, qui est un peu un sujet un peu récurrent, qui va encore nous occuper d'autres émissions, je pense, on pourrait dire presque malheureusement. Oui. C'est le point sur la directive droit d'auteur, donc suite au vote le 12 septembre 2018 au Parlement européen. Donc Étienne est toujours là, il va pouvoir donc faire un petit point sur ce qui s'est passé lors de ce vote et puis ce qui va se passer dans les mois à venir. Étienne ?
Alors oui, tu en parlais, donc vote important là qui a eu lieu donc le 12 septembre et dont le résultat nous a assez fortement déçus. Alors comme on le titrait dans notre communiqué de presse du 13 septembre, donc le lendemain de ce vote, mercredi 12 a été une journée noire pour les libertés sur Internet. Les parlementaires européens ont adopté la proposition de directive à 438 voix contre 226, donc quand même avec une majorité très large, et dans le texte qu'ils ont adopté, ils ont adopté la généralisation du filtrage automatisé de l'article 13, dont on vous a déjà largement parlé dans nos précédentes émissions. Alors plus concrètement, ils ont voté la version de l'article 13 du rapporteur Axel Voss, qui, si vous vous en souvenez bien, donc le rapporteur à la commission jury, donc affaires légales, et le texte qui a été voté là ce mercredi 12 correspond à celle qui avait été votée en juin et qui avait été rejeté, enfin le mandat sur lequel avait été rejeté texte qui avait été rejeté en juillet. Et ce rejet de juillet nous a conduit à ce vote du 12 septembre. Alors cette version du texte qui a été votée, malheureusement, était une des pires qui était soumise aux parlementaires parce qu'elle contient donc les graves menaces que nous avions identifiées, notamment donc d'un filtrage généralisé et ce qui en suit d'un risque de censure. Alors on va noter quand même une bonne nouvelle, alors un lot de consolation certes, mais qui a son importance. Les plateformes de développement de logiciels libres ont bel et bien été exclues du champ d'application de l'article, sans distinction basée sur le but lucratif de la plateforme. Donc la version que portera le Parlement européen exclut bien donc les plateformes logicielles. Parce que voilà, dans la suite, là maintenant, ce qui se passe, donc là, le Parlement européen a adopté ce texte, il va partant, et là, ça commence aujourd'hui, ce qu'on appelle le trilogue, qu'on avait déjà évoqué aussi, c'est-à-dire que le Parlement européen va porter ce texte-là, sa version, il va négocier avec les représentants du Conseil de l'Union européenne, donc les représentants des États membres, et avec la Commission européenne, ils vont négocier entre eux un texte final qui sera normalement début 2019, soumis au vote final des parlementaires européens. Alors dans le communiqué de presse, on avait un peu détaillé, malheureusement on voit bien que côté français, et sans grande surprise, il y a eu un large soutien aux dispositions rétrogrades et liberticides de l'article 13. Il faut voir que seuls 10 parlementaires français ont voté contre l'article 13. Alors, ils étaient issus des groupes EFDD, donc plutôt les eurosceptiques, GU, qui sont le groupe unitaire de la gauche, plutôt front de gauche, donc, et les Verts. Et sur ces 10, seuls 4, eux, ont rejeté complètement la directive, et c'est ce que voilà, nous, on défendait, parce que c'était la seule manière de vraiment reprendre les débats et les réflexions à zéro sur des bases plus saines. Et ce sera tout l'enjeu de réussir à faire sauter donc, la directive lors du prochain vote au Parlement, afin voilà, de pouvoir mener des débats après sereins sur la question. Et on peut malheureusement constater que du coup, les deux principaux groupes français, que sont donc l'EPP, qui correspond près aux Les Républicains, et SED, qui va correspondre près au PS, eux ont voté intégralement en faveur de ce texte. Alors c'est un coup dur, mais voilà, comme je vous disais, c'est pas fini. La directive en elle-même n'a pas été votée. C'est juste une version, la version sur laquelle le Parlement européen va négocier avec les autres institutions. Alors il y a le trilogue qui a commencé. Alors c'est pas une étape, c'est une étape qui se passe beaucoup derrière des portes closes. Il y a assez peu d'espoir.
Elle a même commencé aujourd'hui, je crois.
Oui, elle a commencé aujourd'hui, voilà. Tout à fait.
Donc nous sommes pile poil dans l'actualité, à la pointe.
S'ils nous écoutent, on espère que.
D'ailleurs, j'ai une petite question. Tu dis que le Parlement européen va négocier donc avec le Conseil européen et puis la Commission, mais en fait c'est pas tout le Parlement qui va négocier. Ils ont peut-être mandaté quelqu'un pour négocier en particulier.
Mais a priori, ce serait le rapporteur Axel Voss.
Ah oui, donc le fameux en faveur de tout ce qui est effectivement filtrage automatisé, etc.
Voilà, d'accord. Et dont la compétence, tout le monde, qui a certains éléments à l'intérieur même du texte dont il n'avait pas connaissance, ou alors il avait mal mesuré les effets pervers du dit texte.
Oui, c'était sur les vidéos prises ou les photos prises dans les matchs de sport par des fans, c'est ça?
Pour lui, le texte, il l'avait lu rapidement, il pensait que c'était une manière de préserver peut-être les droits de diffusion des télévisions. des télés, hein, et donc d'empêcher peut-être les personnes de faire des flux non autorisés. Et bah, du coup, n'importe qui prendrait des photos d'un match où il se situe, qui partagerait ça sur les réseaux, en fait, se situerait dans l'illégalité. Et donc, le texte voté, sans qu'il l'a dit lui-même, il ne l'avait pas vu, il n'avait pas fait gaffe, eh bien, on serait dans l'égalité en diffusant des photos sur le réseau qu'on prendrait pendant un match de foot ou autre sport. Donc, on voit un niveau de compétence et surtout de sérieux et donné à ce texte qui est assez dramatique, notamment quand on voit la mobilisation qu'il y a derrière. Alors nous, alors c'est vrai que c'est une étape là qui est un peu compliquée, il y a assez peu d'actions directes à mener, parce que c'est vraiment derrière des portes closes, mais on va quand même agir, ne serait-ce que pour assurer l'exclusion vraiment ferme et définitive des plateformes de développement de logiciels libres, parce que voilà, alors le Parlement européen a bien validé qu'il n'y aurait pas de critères basés sur le but lucratif, le Conseil de l'Union européenne, lui, avait un texte, la version de ce texte-là, et identiquement pour la version de la Commission européenne, contenait un critère, voilà, une exclusion que les plateformes de développement de logiciels libres à but non lucratif. Donc c'est une distinction qui est absurde. Le gouvernement français, dans une réponse à une question écrite, semble dire « vous inquiétez pas, il n'y aura pas de souci ». Donc on va essayer de s'assurer que le gouvernement français, enfin du moins les représentants de la France, traduisent ces belles paroles en actes.
Et donc en fait, propose au Conseil de faire converger sa position sur cette exclusion vers la position du Parlement européen et donc de supprimer ce but non lucratif, de manière exactement à ce que ça exclue toutes les plateformes, qu'elles soient à but lucratif ou non lucratif. Mais c'est juste un petit patch, on pourrait dire, qui ne remet pas en cause le fait que cette directive est une absurdité complète et qu'il faudra de toute façon essayer de la faire rejeter lors du vote final au Parlement européen.
Tout à fait. Là, c'est juste une précaution. Un cliquet, si on arrive à au moins enclencher ça pour minimiser les effets de bord, mais bien sûr, il est hors de question de se satisfaire de cette exclusion. Pour ça, je parlais d'un lot de consolation qui est indispensable si jamais la directive finit par passer. Donc, il faut agir pour ça, pour préserver au moins cela, mais hors de question de se satisfaire. On est bien d'accord. Donc le texte, voilà, tu le dis, donc il y a un texte qui va sortir, qui va être le fruit de ces négociations interinstitutionnelles, ce trilogue. Selon toute vraisemblance, et parce qu'il y a des votes qui devraient arriver, il y a des votes, le vote des parlementaires européens qui se profile. Donc, selon toute vraisemblance, début 2019, les parlementaires vont voter pour adopter ou rejeter le texte qui va sortir de ces négociations. Alors bien sûr, inutile de dire que ce sera facile, hein, les cotes ne sont pas avec nous, mais ça reste tout à fait possible de renverser la table. Et le fait que les élections se profilent, va faire que c'est une période où les élus vont se montrer particulièrement attentifs à l'opinion publique. C'est assez classique, donc. Et c'est à nous de profiter de la caisse de résonance que ça va nous offrir pour vraiment faire entendre nos voix, pour réaffirmer que nous refusons que soit inscrit dans la loi, dans la directive, dans la loi en général, le principe de filtrage automatisé des contenus, de ce que nous partageons, qu'ils ont beau avoir empilé des exceptions, qu'ils ont beau avoir mis des critères qui, soi-disant, limiteraient l'impact de la directive au seul GAFA, mais on sait très bien, enfin ça ne suffit pas, on sait très bien qu'une fois qu'un principe est inscrit dans la loi, c'est qu'une question de temps avant qu'il soit généralisé. Moi j'imagine très bien les industries culturelles revenir nous voir 10 ans plus tard en disant alors très bien, l'article 13 fonctionne très bien sur YouTube, mais regardez, les vilains contrevenants, ceux qui violent le droit d'auteur, utilisent les plus petites plateformes, donc il faut régler ce trou-là, il faut étendre le dispositif. C'est quelque chose d'assez classique. Moi, ça m'évoque l'allégorie de la grenouille qui se laisse doucement ébouillanter. Donc, il est hors de question que ce principe...
Surtout qu'ils n'attendront pas 10 ans. Hein.
Et ils n'attendront sans doute pas 10 ans. Donc, il est toujours temps de faire du bruit. C'était un coup dur, mais le combat continue. Et il faut surtout pas minimiser nos chances de réussir à renverser la table. Et de toute façon, voilà, nous, on restera sur le créneau pour défendre la liberté informatique, pour défendre nos libertés en ligne. Ouais.
Donc, ce qu'il faut retenir, effectivement, c'est que c'est un vote négatif parce que la directive est toujours là. Elle a été donc adoptée en sorte de première lecture, mais qu'il sera encore possible d'agir quand ça va revenir pour le vote final, parce qu'évidemment, le texte va évoluer. Donc, il faut sans doute retirer quelque chose, peut-être rajouter des petits trucs et essayer de converger sur des points. Et ça sera quelques mois des échéances européennes. Il faut rappeler qu'il y a des élections européennes en 2019. Donc voilà, la mobilisation n'est pas terminée. Je pense qu'on aura l'occasion de reparler de ce sujet lors d'une prochaine émission. Je crois que sur le site saveyourinternet.eu, il y a un point de la situation. Est-ce que le texte final d'ailleurs actuellement voté, enfin le texte final, le texte voté par le Parlement européen est disponible facilement ?
Alors, bah, on vous a mis. Alors, facilement, alors, il faut. C'est vrai que ça, c'est une difficulté quand on suit les affaires institutionnelles au niveau de l'Europe. C'est. Alors, ils ont tendance à mettre leur texte un peu partout. Alors, je ne sais pas comment ça fonctionne, mais on vous a mis le lien. Enfin, le lien sera disponible sur april.org. Alors, manière quand on lit ce texte, en fait, ça vous propose d'un côté la version originale, c'est celle de la Commission, et la version amendée, puisqu'en réalité, c'est ça, du Parlement européen. Et vous pouvez voir, ça permet déjà de voir une évolution. Alors la manière de le lire aussi, donc vous avez une directive européenne commence d'abord par une liste de considérants, donc ça montre un peu l'intention du législateur en faisant sa loi. Ça a son importance notamment pour les interprétations des juges si jamais voilà, quand elles pourront avoir lieu. Et suivi ensuite des articles, donc le dur, on va dire le dur du sujet. L'article 13, donc étant celui qui nous pose, enfin qui, sans même si le mot n'est pas écrit dedans, qui pose très clairement le principe d'un filtrage en rendant responsable en fait des acteurs, on peut les appeler hébergeurs, plateformes, services appelons-les comme on veut, mais qui veulent les rendre responsables de contenus dont ils n'ont pas vocation à avoir connaissance, donc ce qui pousse à un filtrage, qui pousse à une surveillance de ce qu'on met en ligne. Et l'article 2, lui, contient donc l'exception pour les plateformes de développement de logiciels libres. Donc voilà, le lien sera sur le site. Et donc je pense que voilà, c'est une bonne manière aussi de s'approprier un peu le sujet, même si ce n'est pas des textes qui sont évidents à lire, elles sont assez parlantes. Et voilà, donc il sera temps, début 2019, de se rappeler, voilà, de prendre contact avec nos parlementaires, de leur dire, voilà, ben, écoutez ce qu'on a à dire, de montrer qu'il y a une mobilisation, de faire du bruit, de leur faire peut-être peur par rapport aux élections à venir sur le fait qu'il y a une mobilisation citoyenne réelle et engagée sur ces questions.
Bah écoute, merci Étienne. Donc, de toute façon, on reparlera de ce sujet bientôt.